This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire, quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Violz et Alain Vaquier réalisée par Léna Kim. Alors cette année-là, 1960, je disais dans un épisode précédent que c'était l'année d'un tournant, et le tournant est beaucoup plus large même que l'on pourrait le penser. Alors en dehors du fait que les nouveaux moyens de communication sont mis au service de politiques peu scrupuleuses, au-delà du fait que tout change dans les années 60, eh bien un phénomène d'ampleur va se passer, c'est la décolonisation. Face à aux revendications qui peuvent surgir dans divers pays, et notamment en Afrique, eh bien, les différents pays européens qui ont soit des colonies, soit des protectorats, en Afrique notamment, vont donner libre cours à l'indépendance de ces pays. Et ce n'est pas moins de 17 États qui, en 1960, accèdent à l'indépendance. Alors les choses vont se passer un peu dans la précipitation. C'est d'ailleurs dans le cas de la France, c'est la défaite en Indochine qui va précipiter le mouvement. Les choses vont se passer moyennement bien pour ce qui concerne la France, à l'exception de l'Algérie, sur lequel nous reviendrons bien entendu. Et puis ça va mal se passer surtout aussi pour la Belgique, avec notamment un conflit qui va se développer au Congo belge, dit belge, ou Congo Léopoldville. Voici ce qu'à l'époque pouvait se diffuser comme information liée à cette massive décolonisation.
Le 1er janvier 1960, l'émancipation du Cameroun lance la grande vague des indépendances en Afrique. 17 pays s'affranchissent de la tutelle coloniale au cours de l'année. Une transition négociée et pacifique pour l'essentiel, le Cameroun étant l'un des rares pays où la France a livré une guerre féroce contre les radicaux qui ont refusé les compromis de l'indépendance octroyée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la montée des mouvements d'émancipation avait conduit les puissances coloniales à accorder les premières indépendances en Asie et une certaine autonomie à leurs colonies africaines. Mais la France s'accroche à son empire colonial. C'est finalement la défaite en Indochine et le début des insurrections en Algérie et au Cameroun qui précipitent la décolonisation au sud du Sahara. En 1957, le Ghana le premier obtient son indépendance, suivi un an plus tard par la Guinée de Sékou Touré qui avait dit non à la communauté franco-africaine instaurée par le général de Gaulle. Deux ans plus tard, pour maintenir des liens privilégiés, la France s'empresse d'émanciper 14 de ses territoires, tandis que la Grande-Bretagne accorde son indépendance au Nigeria et à la Somalie. La Belgique, elle, abandonne alors précipitamment le Congo. Mais au Congo, l'assassinat de Patrice Lumumba sonne le glas d'une décolonisation en douceur. Après l'enlisement des régimes de la Guinée et du Ghana, soumis aux tensions de la guerre froide et aux appétits des anciennes métropoles, le rêve d'un continent africain unifié et démocratique s'estompe. À partir de 1961, le mouvement des indépendances se poursuit de manière plus hésitante en Afrique de l'Est et du Sud, où les Britanniques vont mettre 6 ans pour émanciper le reste de leurs colonies. Le Portugal, quant à lui, en dépit de guerres de libération meurtrières, continuera de s'accrocher à ses territoires africains jusqu'en 1975.
Voilà, c'est ainsi que cette large décolonisation va amener une nouvelle distribution de cartes. Alors qu'on ne s'y trompe pas, certes, ces pays vont être décolonisés, donc vont devenir entre guillemets indépendants, c'est-à-dire qu'ils vont voir succéder au gouverneur blanc français un certain nombre de personnes de leur propre ethnie ou de leur propre communauté à ces mêmes commandes de l'État. Mais les choses deviennent en fait plus complexes, c'est-à-dire qu'on laisse au fond, et c'est le cas de la France notamment, on laisse à ces pays le soin d'organiser, disons, la vie quotidienne, les rapports sociaux généraux, et le pouvoir va s'exercer autrement. Il va s'exercer notamment avec des multinationales qui, à travers le pétrole et à travers les matières premières, vont contrôler l'ensemble de ces pays, à l'exception de quelques-uns qui, voulant absolument être indépendants et sans tutelle de la part de la France, vont être plongés dans des situations vraiment pas faciles. Et ce sera le cas de la Guinée. L'État français, comme on l'entendait dans le commentaire tout à l'heure, a du mal à se séparer de son empire colonial. Et donc, on va organiser les choses de manière à ce que rien ne change, au fond. Et on va créer la communauté française. Et donc, la plupart de ces pays, des pays donc émancipés vont intégrer cette communauté française à la tête de laquelle on va mettre un homme, Jacques Foccart, qui était une sorte d'éminence grise du général de Gaulle et qui va tirer les ficelles des différents gouvernants de l'Afrique francophone. Alors, à travers des organismes francophones ou à travers des organismes économiques, eh bien, c'est le début de ce qu'on appellera plus tard la France-Afrique. Et en jouant sur le jeu de mots, Afrique et Afrique. Et donc, ce monsieur Foccart va donc, quand je dis tirer les ficelles, ça va aller beaucoup plus loin. Il va faire tomber certains gouvernements, faire accéder certains autres, en fonction de prébendes, en fonction de négociations diverses. Ceci pour la France. Alors, pour la Belgique, les choses vont pas très très bien se passer. En l'occurrence, les choses vont se faire précipitamment. Le roi des Belges va bien sûr aller au Congo pour essayer de donner quelques solennités à cette indépendance, mais en fait, le cœur n'y est pas et les choses sont un petit peu grippées. Alors, la stature d'un homme va émerger, il s'agit de Patrice Lumumba. Cet homme jeune, 35 ans, va accéder au rôle de Premier ministre. C'est une personnalité extrêmement intéressante, très cultivée, très indépendante, qui a une ambition pour son pays. Eh bien, cet homme ne va pas avoir l'occasion d'exercer cette ambition pour son pays, parce que ce démocrate, que l'on traite par moments de dictateur, eh bien, ce démocrate sera assassiné, et ce qui plongera le pays dans une terrible terreur, avec notamment l'opposition entre les pays du Sud et les pays du Nord, et notamment le Katanga. Voici ce que les actualités françaises communiquaient au sujet du voyage à propos de l'indépendance et le voyage du roi Baudouin au Congo.
Ce mot d'indépendance est le mot de l'heure. C'est lui qui a conduit à Léopoldville le roi Baudouin, que la population a acclamé aux côtés de M. Kazavubu, chef du nouvel État congolais. Le palais de la nation avait attiré la grande foule. Là, le roi allait proclamer l'indépendance du Congo devant les deux chambres réunies et de nombreuses personnalités étrangères, parmi lesquelles l'abbé Fulbert Youlou, venu en voisin. Deux signatures, enfin, dont celle de M. Lumumba, chef du gouvernement congolais, mettait fin à 80 ans de souveraineté belge.
Voilà, donc le pays est indépendant et il va se doter donc d'un chef de l'État, M. Kazavubu, et un Premier ministre, Patrice Lumumba. Nous allons écouter une interview réalisée par Roger Louis, qui était grand reporter en 1960 de la télévision française, et qui a donc réalisé l'interview de Patrice Lumumba dans le cadre d'une émission qui s'appelait « Cinq colonnes à la une », qui était une grande émission d'actualité et qui était une véritable fenêtre sur ce qui se passait dans le monde. Interview de Patrice Lumumba.
Je voulais savoir quel âge vous avez.
J'ai 35 ans.
Et où êtes-vous né?
Je suis né dans le territoire de Katakokombe, dans la province de Kasaï.
On m'a dit que c'était le centre de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai?
Mais le Kasaï, c'est précisément, c'est au centre du Congo.
Au centre du Congo?
Je ne sais pas situer si c'est au point de vue géographique, c'est au centre de l'Afrique, mais en tout cas, la province du Kasaï est située au centre du Congo.
Est-ce que je peux vous demander ce que faisaient vos parents?
Mes parents faisaient des cultivateurs. Ils sont à Corvuba, bien portant. Et ils sont au village.
Vous avez commencé vos études à quel âge?
À l'âge de... l'instant... de 8 ans, je crois.
8 ans.
8 ans.
Et quels ont été les auteurs qui vous ont le plus frappé?
Mais je me suis... Je peux vous dire que depuis ma jeunesse, j'ai eu un esprit un peu particulier, c'est-à-dire de ne pas trop, j'avais des sentiments d'indépendance vis-à-vis de n'importe qui, de mes parents, de mes professeurs, et j'ai essayé d'étudier un peu de tout et de prendre parfois chaque idée, parce que j'ai toujours dit comment se fait-il qu'il y avait des penseurs, il y avait des philosophes et qui étaient des maîtres, alors je voulais étudier un peu tous les systèmes. Et c'est ainsi par exemple que mes parents sont des catholiques et se sont mariés religieusement à l'église. Et nous sommes quatre enfants, tous des garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études primaires, je les ai faites chez les protestants. Et alors, ce n'est qu'en présent que je suis allé chez les catholiques, ce qui fait que j'ai pu ainsi subir les deux influences, le catholique et le protestant, ce qui a fait de moi accentuer mon indépendance d'esprit, de jugement.
Quand avez-vous pris conscience de la nécessité de l'indépendance du Congo et par quoi?
Depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors, je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école, on nous enseignait il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que l'Européen nous donnait à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, que... Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, et très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression.
Magnifique interview de Roger Louis à propos de Patrice Lumumba qui montre bien qu'il est un pur produit de l'esprit des Lumières français, puisqu'il fait référence à la Révolution française et à l'esprit de cette révolution. À la lutte contre l'injustice. Et bien cet homme qui, donc à un âge relativement jeune, accède au pouvoir, ne va pas y rester longtemps. Et le 4 juillet, la crise congolaise va s'enclencher, juste après l'indépendance. Cette crise, cet état de guerre va durer jusqu'en 1965. Alors qu'après l'indépendance, donc, l'armée nationale l'armée nationale congolaise était toujours dirigée précisément par des officiers blancs et les soldats noirs, évidemment, se rebellent. Ils tuent leurs officiers et violent leurs femmes. Alors, évidemment, ça n'est pas très démocratique tout ça, ni très... Et donc, le Premier ministre, qui n'est autre que Patrice Lumumba, répond par l'africanisation des cadres et un doublement de soldes. Alors, la Belgique, évidemment, refuse cet état de fait. et envoie des troupes aéroportées et c'est le conflit. Pour réagir à cette invasion étrangère, puisque maintenant les deux pays n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre, eh bien, Patrice Lumumba va appeler les Soviétiques à l'aide, ce qui pousse la Belgique à retirer immédiatement ses troupes, parce que évidemment l'armée belge n'est pas de taille à cette époque à faire face à une intervention soviétique. Et le 11 juillet, le Katanga, qui est la riche région minière du sud du Congo, tente une sécession sous la conduite de Moïse Tshombe, et donc crée l'État du Katanga, qui ne sera évidemment reconnu et appuyé financièrement que par la Belgique. Alors, dans cette confusion générale, un général va apparaître, il s'agit du général Mobutu, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, donc qui a duré très longtemps, et qui lui envoie en mission le Premier ministre, Patrice Lumumba, au Katanga, où là, il est assassiné. Alors, il y a plusieurs thèses, bien sûr, sur son assassinat. Beaucoup disent que c'est un accident de l'histoire, et beaucoup d'autres disent que ce sont les services secrets, certains services secrets européens qui auraient commandité l'assassinat, car Patrice Lumumba était un individu gênant qui risquait de mener le pays dans une voie très indépendante que personne ne souhaitait. En fait, la sécession donc de cette province du Katanga ne sera finalement brisée qu'en 1963 par les forces de l'ONU, puisque c'est l'organisation internationale qui prendra en charge ce conflit durant 5 ans. Quant à Patrice Lumumba, lui, il sera donc assassiné et son décès ne sera évidemment pas fêté, ni il n'y aura aucune commémoration de la part de l'État congolais. Et le 14 septembre 1960, eh bien, le général Mobutu prendra le pouvoir pour lui-même au cours d'un coup d'État. Donc voilà, ce qui s'est passé au Congo est l'exemple même de ce que l'Europe a pu, comment l'Europe a pu décoloniser dans une situation absolument catastrophique. Un peu comme la France a pu le faire aussi en Algérie. Algérie qui a souvent inspiré des musiciens de jazz, notamment Archie Shepp, qui est allé plusieurs fois donner des concerts là-bas et qui est l'un de ceux qui ont suivi la voie tracée par John Coltrane, qui donc est ce musicien qui a, cette année-là, modifié un peu le cours du jazz. Thank you. Enregistré le 21 mars 1960, le quintet de Miles Davis avec John Coltrane au saxophone ténor, Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la contrebasse, Jimmy Cobb à la batterie. Alors, si John Coltrane commence à jouer sa musique et à l'enregistrer, et, comme on l'a vu dans un épisode précédent, être un peu en rupture avec la musique qui se fait avant lui, en tout cas par les leaders qui sont là depuis longtemps, et notamment Miles Davis, chez qui Coltrane a quand même fait ses classes, eh bien, il continue à jouer avec Miles Davis, et c'est dans cette alternance entre sa propre musique et son travail avec Miles que Coltrane, peu à peu, va élaborer sa propre musique. Et je vous propose d'écouter donc un enregistrement réalisé l'année suivante, mais qui est une belle composition très significative de son style de John Coltrane. Il s'agit de « Impression ». Thank you. Impression, une composition de John Coltrane en compagnie de Eric Dolphy au saxophone alto, McCoy Tyner au piano, Reggie Workman à la basse, Elvin Jones à la batterie. Voilà le type même du morceau qui incarne le mieux cette musique qui naît en 1960 et que John Coltrane portera au plus haut de son art. Ceci était le deuxième épisode de 1960. Demain, un nouvel épisode, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.